France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme du 5-6 ce matin, une fille de marin et marin elle-même rencontre avec Marita Barly dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout tombe à pic. Il a inventé une application qui favorise notre sommeil et il sera avec nous pour en parler. Dormir, se réveiller, se lever, se regarder dans le miroir. Mais comment faisait-on avant les miroirs? Éléments de réponse avec les petits bateaux. Il y aura aussi juste avant 6h une chanson de Jeanne Moreau en version transalpine dans la playlist. Et des larmes et sanglots décodés dans le Café Philo. Merci de nous écouter, vous avez le programme. Et je vous accompagne pour 4 heures d'antenne.
France Inter.
Et ça commence par le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À gauche comme à droite, tous condamnent les violences commises contre des militants socialistes.
Des insultes, des coups, les socialistes ont été pris pour cible hier dans les défilés du 1er mai. À Paris, le député Jérôme Guedj a été pris à partie par des personnes cagoulées. Des attaques inacceptables et absolument lamentables pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le patron du PS Olivier Faure a lui annoncé porter plainte.
C'est insupportable, inadmissible de la part de ces fanatiques qui, en réalité, détruisent toute forme d'action collective. Avoir des gens qui, ici, à Paris, se soient sentis invités à aller faire le coup de poing face à des élus, face à des militantes et des militants exemplaires qui sont justement là pour défendre le jour de la fête des travailleurs, l'emploi, les salaires, les retraites, c'est tout simplement aberrant et nous ne laisserons pas passer. Nous avons porté plainte et j'espère que la République retrouvera tous ses droits parce que il n'y a aucune raison de laisser passer ce genre d'agissement.
Et au cours de ces heures, 50 personnes ont été interpellées et 6 policiers légèrement blessés. Le 1er mai, marqué par ailleurs par un léger regain de mobilisation, 300 000 manifestants comptabilisés à Paris comptabilisés par la CGT, 157 000 selon le ministère de l'Intérieur, soit 35 000 de plus que l'année dernière. La famille d'Aboubacar Cissé annonce porter plainte pour acte de terrorisme une semaine après la mort de ce jeune malien tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Gard. Pour le moment, son assassin présumé est visé par une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. Un millier de personnes ont également défilé à Paris hier à la mémoire d'Aboubacar Cissé pour dénoncer l'islamophobie derrière ce drame. Les magistrats appelaient à limiter les dépenses, message du garde des Sceaux dans une circulaire où Gérald Darmanin appelle à la vigilance sur la bonne utilisation de l'argent public, l'augmentation des frais de gardiennage des voitures saisies et notamment pointées ou encore le recours massif à des entreprises privée pour les opérations de géolocalisation. Il faut désormais une culture de la mesure, selon les mots du ministre.
Aux États-Unis, un premier remaniement dans l'entourage de Donald Trump.
Le président américain qui remercie son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, quitte la Maison-Blanche à peine 100 jours après y être entré et après une polémique des plans militaires partagés par erreur avec un journaliste, Marie Mollet.
L'information avait déjà été révélée par la presse américaine. Confirmation à mots couverts hier soir par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Je vais nommer Mike Waltz ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU. Je sais qu'il a travaillé dur pour faire passer les intérêts de notre nation en premier, écrit le président américain. Le conseiller à la sécurité nationale est donc écarté après avoir été mis en cause dans le Signal Gate, une affaire qui embarrasse la Maison-Blanche depuis mars. Des plans militaires confidentiels partagés par mégarde dans un groupe sur la messagerie Signal. Un journaliste avait été ajouté par erreur à la conversation. En mars, Donald Trump avait répété son soutien à ses équipes et refusé de limoger quiconque. 5 semaines plus tard, il a donc changé d'avis. La presse américaine cite déjà l'émissaire spécial en Russie, Steve Witkoff, comme potentiel successeur. Et s'interroge aussi, s'agit-il d'un cas isolé ou ce départ est-il le premier d'une longue série? Le ministre de la Défense, Peter Hegseth, va-t-il rester? Lui qui est dans le viseur des démocrates, qui pointe sa responsabilité et sa légèreté dans le scandale Signal.
Marie Mollet, envoyée spéciale d'Inter à Atlanta. Les États-Unis où la guerre commerciale engagée par Donald Trump commence à se faire sentir au cours des 3 prochains mois. Les nouveaux droits de douane vont représenter 900 millions de dollars de manque à gagner pour Apple, la marque à la pomme dont les téléphones sont produits en Asie. De quoi faire de l'ombre aux bons résultats dévoilés hier, avec un bénéfice net en hausse de presque 5% sur un an. La famine menace plus que jamais à Gaza. Ça fait 2 mois jour pour jour que l'aide humanitaire n'entre plus dans l'enclave palestinienne. Un blocus organisé par l'armée israélienne, avec pour conséquence des stocks quasi vides pour les 2 millions de Palestiniens, également visés par la reprise des frappes. Au moins 29 personnes sont mortes hier dans des bombardements. Israël qui annonce avoir bombardé le quartier du palais présidentiel de Damas en Syrie. L'État hébreu menacé de frapper son voisin après une série d'attaques contre la communauté druze. En deux jours, ces affrontements ont fait plus de 100 morts parmi les membres de cette minorité chiite, visée par des groupes armés liés au nouveau gouvernement sunnite. Avant ces frappes, l'ONU alertait déjà sur un fort risque d'escalade. Des élections locales aux airs de tests politiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, 10 mois après l'arrivée au pouvoir du travailliste Keir Starmer, un scrutin qui devrait surtout confirmer l'effondrement du parti conservateur au profit du parti d'extrême droite Reform UK.
En France, des salles de classe clairsemées aujourd'hui.
C'est le pendant de ces vendredis coincés entre un jour férié et un week-end. Si certaines entreprises font le pont, les élèves, eux, sont censés être en cours. Les syndicats enseignants l'ont rappelé ces derniers jours en dénonçant ce qu'ils appellent l'école à la carte, Louise Buyens.
Le réveil a sonné ce matin pour Violette.
J'aurais préféré que ce soit férié aussi, mais ça me gêne pas forcément.
La maman de Lina aussi emmènera sa fille en classe aujourd'hui.
Ah bah nous, on va à l'école.
Ouais, la pauvre.
Ouais, la pauvre, c'est ça. J'ai un peu l'habitude de suivre un peu les règles pour ça, mais après j'avoue que s'il y avait le pont, ce serait pas plus mal, hein, parce que ça permet de faire un long week-end aussi. Et le week-end, c'est pas mal, mais bon.
Les enfants ne font le pont que pour le week-end de l'Ascension, pas de long week-end la semaine prochaine non plus pour le 8 mai. Peu importe, pour Elsa, cette maman de 3 enfants n'avait pas prévu de partir.
Pas prévu de partir 3 ponts d'affilée dans tous les cas, on n'aurait pas eu vraiment les moyens de ça non plus.
Simon trouve aussi que c'est un problème de riches.
Mes enfants sont dans une classe avec des origines sociales assez mixtes et je pense que les enfants vont aller à l'école parce qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui ont les moyens de partir en week-end prolongé et rester enfermé à la maison alors qu'il fait très beau et qu'on ne peut pas partir, bah, c'est pas très utile quoi, donc autant mettre les enfants à l'école.
Pour les plus grands, un autre papa raconte que le lycée de son fils organise des examens blancs pour préparer le bac, une façon intelligente, dit-il, d'utiliser la journée.
Le reportage ici, Picardie, ex-France Bleu de Louise Buyens. Garer son SUV dans les rues de Bordeaux va coûter plus cher. La ville augmente dès aujourd'hui le prix du ticket de stationnement de 30%. Sont concernés les véhicules thermiques de plus d'une tonne 6, une tonne 9 pour les modèles électriques ou hybrides. La mairie écologiste veut lutter contre la pollution et aussi l'encombrement de l'espace public, comme c'est déjà le cas à Paris. Une sortie dans la douleur pour la tenniswoman Iga Swiatek, éliminée hier en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Madrid en seulement 2-7, 6-1, 6-1. La polonaise numéro 2 mondiale a donc été sortie par la numéro 4, l'américaine Coco Gauff, à seulement 3 semaines désormais du tournoi de Roland-Garros.
Et il est 5h07 sur France Inter, c'était le journal de Valentin Bertrand. À tout à l'heure Valentin.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
C'est aujourd'hui que ça se gâte, Elodie Calac.
Encore de la chaleur, du soleil et quelques orages pour le sud-ouest. C'est très ensoleillé ce matin, juste quelques grisailles vers la Bretagne et la Basse-Normandie, vite effacées. Un voile nuageux aussi entre les Pyrénées et le Roussillon. Le vent de sud à sud-est souffle des Pyrénées à la vallée du Rhône, jusqu'à 60 km à l'heure, 80 pour le vent d'Autan. Comptez déjà 9 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi, le soleil va rester largement dominant du nord de la Seine vers l'île de France et le Grand Est. Ailleurs, il sera plus voilé. Les nuages élevés gagneront du terrain jusqu'à la Bretagne, au centre-val de Loire et à la Franche-Comté. Des averses parfois orageuses pourront éclater sur les Pyrénées, le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie. Elles remonteront en soirée vers le nord de l'Aquitaine et la Bretagne. Il va encore faire chaud cet après-midi, 21 degrés à Brest, 23 à Nice ou à Sète, 27 à Nantes, à Montauban, 28 à Lille, Strasbourg, Limoges et Bordeaux, 29 à Paris, Reims, Clermont-Ferrand ou Grenoble. Et puis pour ce week-end, ça va changer avec une dégradation orageuse et des températures en baisse.
Elodie Calac de Météo France. Il est 5h09.
France Inter. Marion Lourd, le 5-6.
À suivre sur Inter, une capitaine à la prestigieuse ascendance, Marie Tabarly, dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout habite les Hauts-de-France et nous donnera en ses heures matinales toutes les astuces pour mieux dormir. Il a créé une appli consacrée à ce sujet. La chronique d'où ça sort s'intéresse au tourisme esthétique, vous verrez. Et puis pour notre plus grand plaisir, Charline Vanhoenacker explose les faits à 5h25. Elle s'amuse de la guerre des chefs potentiels chez LR. Dans quelques minutes donc, les chroniques littorales, mais d'abord musique, avec un rappeur britannique, Central C. Il chante Top Freestyle.
« peace. It's lowly at the top, lot of people are watching and want me to flop. I'm telling the kids if I can do it, then anyone can. Car came from none, one stop and search away from the block. In this life I don't feel fear, only man that can make me afraid is God. Negative press on a shade room, anything good it don't make the blocks. They did a set at the table, when it was chicken shop, now steak and lobster, edamame and pan-Asian cod. My first bedroom smaller than a jail cell, now the crib's on a 10-acre block. First time I committed a crime was petty, I couldn't afford what the trainers cost. First time I sold crack, I was just 16, witnessing that at that age was wrong. Detached myself from every emotion, hoping I'll get my paper long. One brick phone, one iPhone, no SIM, listening to the same old song. I'm jumping the barriers if the inspector get on the train, I'm gone. Now the whip that I'm in's an impatient one. Put my foot on the gas when the light goes amber. Try touch me and guns will shoot. We don't do kung fu and fight like panda. My guy's a convicted criminal, so he got a hide from cameras. All of my bitches pretty as hell, I could start up a beauty pageant. How'd I end up all the way in Clapham? I started my day in NW2, delivering food direct to your door. You can leave a review like Deliveroo. Sticks outside for a special occasion. Nankon hip, that's everyday shit. Gotta thank God that I never did. Dark and light did sell it in two. Before I got an invite to my Rubens all-white party, 4th of July. I was sat in a trap with a pack all night. Cocaine fragrance, weren't dressed in white. 15 minutes away from the shop, but I said that I'll get there in less than 5. It gives me the ick when girls come around and try too hard to impress the guys. I sat and I told the Sony exec, if you give me a 10 for a tape, I'll sign. Everything's gonna come to an end. When I counted the M, I was on cloud 9. If it weren't rap, I would've been a pimp. I look at a bitch and I see pound signs. Plus 1,000 aura, even if I don't talk, they'll feel our vibe. Label execs don't care if we're murderers, long as your catalog's bringing in revenue. They'll sign you, and when you go broke, I end up in jail, they're quick to forget you. I can't worry about album sales, I got serious shit that I'm trying to get through. How can they talk down on my name for trying to get paid? I'm playing a chess move. GTA, I'm using cheat codes. Cheat at school and exams, I'm fucked up. Cheat on my wife, but how can you blame me? I cheated life. I weren't supposed to make it this far. I got no grades, I ain't even wise. Walk down Uxbridge Road, I reckon that one in three of these people high. Supply and demand, that's how I get by. She telling me how a trap boys her tight. I'm trying to not get too used to the life. I'm staying inside, avoiding a hype. So many gal that are wanting to fuck, I'm turning them down, they're wondering why. I'm nonchalant, not shy. My entourage top 5. I'm probably one of the, I've gotta be one of the greats. I'll get number one album easy. It's not like the bar sit high these days. I came in a scene at all time low, I don't know, but I think I revived the game. I've been praying that times would change. Premeditating a graceful exit. In the meantime time I'll try maintain. All right. Listen.
Top freestyle de Central C, merci d'écouter France Inter. Il est 5h13 sur France Inter, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lour.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées, vous le savez, à des portraits de gens de mer. Et ce matin, vous recevez une navigatrice du grand large.
En la personne de Marie Tabarly. Marion, Marie Tabarly, bonjour.
Oui, bonjour.
Marie Tabarly, capitaine du Penduic 6.
Exact.
Vous avez décidé de vous lancer dans l'Ocean Globe Race avec un équipage spécial, cet équipage. Parce que ça, c'est dans votre ouvrage, un cavalcade océane. Ça vous a marqué ?
Bah bien sûr, bah de manière, on ne fait pas un tour du monde.
Sans satellite,
ouais,
sans communication, et avec escale.
Avec escale, on est reparti dans les premières conditions de la Whitbread 73. Même parcours, Southampton, Cape Town, Cape Town, Auckland, Auckland, Punta del Este, en passant sous le Horn, évidemment. Et retour France, tout ça avec un équipage pro et amateur.
Qu'est-ce que ça fait de passer le Cap Horn, le Horn, comme on dit ?
Bah, c'est une bonne délivrance quand même. Hein. On se dit que, surtout que nous, on s'était pris une belle grosse dépression juste avant. Donc le matin où on passe le Horn, au petit matin, et surtout qu'on le passe en tête avec Translated qui est derrière, donc c'est bien quand même. Comme on dit dans le milieu, c'est un peu la fin des emmerdes. Hein. Quand on passe le Horn, on sait que c'est la fin du Pacifique et donc le début de l'Atlantique Sud. On est proche des secours s'il y a un problème. L'eau, plus on va remonter, plus l'eau va se réchauffer, donc on a une espérance de vie qui est moins limitée. Et puis surtout, on va recommencer à avoir des ciels différents, où là on était quand même dans la grisaille du Sud depuis un moment. Mais ça devient pas les vacances tout de suite. Hein.
Il y a problème.
Ouais, on s'est pris des arcus, là, les énormes nuages rouleaux compresseurs dans le bas de l'Amérique latine. ça les a sentis passer. Hein. Le horn, ça va, c'est avant et c'est après le problème.
Vous vous mariez avec la citation d'Aristote. Il y a trois sortes d'humains, les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer. Et c'est de plus en plus prégnant pour vous.
Je trouve que ça illustre vraiment bien ce qu'on vit quand on est loin. Puis même moi, quand je vois mes amis partir en mer, en fait, au bout d'un moment, on reprend notre vie et nos amis ne sont plus qu'un petit point sur une carte.
Est-ce qu'il y a deux grands moments pour une course comme celle-là, le départ et l'arrivée? Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit ou pas?
C'est pas les moments les plus marquants pour moi. J'ai vraiment eu l'impression de commencer d'aller dans l'inconnu quand on a passé l'Amérique latine. Enfin, on voit qu'on met le clignotant à gauche et que là, on commence à voir.
Le clignotant.
Ouais, on descend autour de Sainte-Hélène et que là, on arrive sur des endroits où on va beaucoup moins. Mais après, c'est sûr qu'on ne rentre pas. Il s'est passé tellement de choses que j'ai pris des points de vie, ouais. Ou perdu d'ailleurs.
Il y a un projet?
Ouais, il y en a toujours 50 de projets. Hein. J'ai une machine à idées dans la tête qui fonctionne pas mal. Donc, j'ai aussi les entraînements avec Alexia Barrier et le trimaran IDEC The Famous Project pour le Jules Verne en équipage féminin. J'ai peut-être une Café de l'Or en fin d'année aussi. Si Penvic 6 ne navigue qu'une semaine cette année, c'est pas bien grave. On a encaillé 48 000 milles en deux ans. Ça fait depuis 2018 qu'on n'arrête pas de naviguer dans tous les sens. Donc, c'est pas bien grave s'il se repose un petit peu.
48 000 milles, on multiplie par 1,8 pour connaître le nombre de kilomètres.
Ouais.
Ça vous arrive aussi à un moment de prendre le bateau simplement pour, comme ça, pour vous balader
ouais, alors,
pour le loisir. Non, pas Penvic 6, mais un autre.
J'ai pas de bateau sans emmerde, moi. Hein. J'ai que des gros bateaux. j'ai pas un petit truc que je peux prendre comme ça, youhou, on va sur l'eau. Quoi.
Qu'est-ce que c'est que la mer pour vous?
Moi, j'adore pouvoir prendre une planisphère et me dire, en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je ne peux pas forcément aller. Après, il y a des continents pour lesquels je n'ai pas du tout d'affinité.
Lesquels?
Je ne suis pas très Asie, moi.
Non?
Non, il y a trop de monde.
Ouais, pas trop de monde.
Ouais, trop de monde et fait trop chaud. Si je devais partir demain, ce serait directement Canada, Alaska, Colombie-Britannique. Quoi. Ça, c'est...
Ah oui, là où il fait froid.
Ah mais c'est beau, c'est tellement beau. Il y a des endroits un petit peu compliqués, mais bon, il y a des grizzlies, il y a plein d'îles en bateau. En plus, tout au nord de Vancouver, il y a plein d'îles qui sont hyper chouettes à faire.
Ouais, mais attaché à la Bretagne quand même.
Ah bah le camp de base, il est toujours en Bretagne et il n'y a pas beaucoup de chance pour que ça... Ou alors, si je peux plus vivre en Bretagne, là où je réside, je pourrais pas rester en France du tout, je pense.
Mmh. Merci Marie Tabarly. Je rappelle votre ouvrage « Cavalcade Océane », c'est chez Artaud. Une belle aventure, une grande aventure.
Merci.
Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin, des unes très économiques et sociales. La croissance en zone de turbulence inquiète les échos, le produit intérieur brut a reculé aux États-Unis au premier trimestre. En France, l'activité reste morose en début d'année. Au Japon, la Banque du Japon taille dans ses prévisions de croissance, liste le journal, quand le Figaro Echo raconte lui aussi la douche froide sur la croissance américaine. En une du cahier général du Figaro, c'est un sujet entre économie et géopolitique. Un accord minier avec Trump redonne de l'espoir à l'Ukraine. Les deux parties sont enfin tombées d'accord. Accès prioritaire au sous-sol ukrainien pour Washington. Aide américaine arrimée pour Kiev. Arrimée, c'est le mot du Figaro. Libération revient en photo dans les défilés du 1er mai avec ce titre « Travailler plus », un débat qui va croissant. C'est ce que dit le quotidien à l'image de cette discussion autour de l'ouverture des boulangeries le 1er mai. L'injonction à la productivité, je cite, poussée par le gouvernement, revient en force dans le débat. Le Parisien s'intéresse à la ruée vers l'or, les cours du métal précieux qui s'envolent. Un placement en or, estime le journal. En 10 ans, le prix du métal jaune s'est envolé de 1 000 à 3 000 dollars l'once, valeur refuge pour les investisseurs qui visent le long terme. Original en une de la Croix, ces regards de femmes sur le conclave qui bientôt va démarrer à Rome pour désigner le nouveau souverain pontife. Aucune femme n'étant évidemment papabilée, autrement dit impossible de les nommer pape, elle n'en pense pas moins. L'équipe nous raconte que pour préparer au mieux leur match de Ligue 1 dimanche à Lille, les footballeurs marseillais, justement, ont passé la semaine à Rome, les Vénards. Côté presse magazine, la série du moment fait la une de TV Magazine, c'est The Last of Us, deuxième saison de cette série survivaliste à base de zombies et de champignons. Un des scénaristes est interviewé en page intérieure. Le magazine salue une fiction qui révolutionne l'alliance entre jeux vidéo et séries. Et puis alors qu'on parle en ce moment de la crise crise de l'auto, des baisses de vente de certaines marques. Les éco-magazines jouent le suspense et la surprise avec en une cette voiture dissimulée sous un drap rouge qu'une main robotique s'apprête à dévoiler. Le dossier, c'est notre nouvelle voiture. Moteur dans les roues, écran à la place du pare-brise, disparition du volant, des innovations fascinantes. Allez, on embarque. À 5h19, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, c'est le tourisme esthétique. Alors, d'où ça sort ?
Le tourisme esthétique, ça participe de l'histoire d'un phénomène qu'on a déjà abordé dans cette émission, le low cost. Au début des années 2000, on commence à voyager plus facilement et pour moins cher. L'avion se démocratise, donc comme on se balade, on découvre aussi des opportunités. Dont celle-ci, des opérations de chirurgie esthétique qui peuvent coûter 2, 3, 4, voire 5 fois moins cher qu'ici chez nous. Résultat, les touristes deviennent des patients et les patients deviennent des touristes. Et c'est d'abord en Thaïlande que ça se passe. Le pays, connu pour attirer les touristes sexuels, se met aussi à attirer celles et ceux qui veulent se refaire une beauté, les touristes esthétique. Aujourd'hui encore, si vous faites des recherches sur Internet, la Thaïlande est présentée comme un des pays leaders du secteur. Un pays où les techniques sont les plus pointues et les cliniques les plus modernes.
Et après la Thaïlande, où se développent ces opérations low cost ?
La Turquie, le Brésil, la Tunisie ou encore la Hongrie s'engouffrent dans la brèche des pays qui flairent qu'il y a un business juteux à développer. C'est là qu'apparaissent des agences de voyage spécialisées, l'avion, l'hôtel, des visites, de la farniente sur la plage et un nouveau-né. Une nouvelle paire de seins ou une ceinture abdominale miraculeusement raffermie, tout est compris, et pour moins cher que la seule opération dans notre pays d'origine. Certaines prestations vont même plus loin pour se démarquer justement de l'image low cost. On commence à mettre en avant les cliniques haut de gamme pour l'accompagnement, par des traducteurs et même des nurses pour s'occuper des patients post-op. Et pour se faire connaître, quoi de mieux qu'Instagram ? Les réseaux sociaux sont devenus les meilleurs agents de com de ce tourisme esthétique, pour le meilleur et pour le pire.
Et le replay de Zoom Zoom Zen est à réécouter sur le site internet de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera question, entre autres, de la naissance du label Barclay en 1954. 5h21 sur Inter. Dans un instant, l'humour de Charline Van Hoenacker. Mais tout de suite, la française enchantée Julia. Elle chante les Santolines et c'est dans la playlist. Mon réveil sur Inter.
Désespéré quand je vois le monde, je me lève et je vois les feuilles tomber. J'ai vu d'en haut que la terre est ronde, que le vent tourne. J'ai plus de montre et plus de temps. Je suis désemparé mais je dois avancer. En hiver le temps s'invite à danser. Je cours. Changement de saison, je reviens. Se ressemble avec un félin dans un appartement. Au moins ils sont ce que je ressens, mais pas fou. La terre est toujours en mouvement. Tu ne pourras plus m'empêcher d'avancer. Moi j'aime quand ça va doucement, je l'avoue. Et tous les jours j'attends qu'il pleuve. Enfin j'ai plongé dans le fleuve. C'est tant d'épreuves. En amour, il faut des preuves. Changement de saison, je reviens à la maison. Rêver, rêver. Quand la nuit tombe, le cœur a ses
C'était les Santolines d'Enchantée Julia, extrait de son dernier album 11, à retrouver en concert un peu partout en France.
France Inter.
Allez, à 5h24, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Charline Vanhoenacker. Tous les matins, dans le 7-10, vous le savez, elle explose les faits. Et mardi dernier, elle se demandait comment des gens ont bien pu cotiser pour choisir entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau.
Malgré le côté désuet de la chose, je me passionne encore pour les congrès, les motions, le vote des militants. Sur France Inter, on est deux. Il y a Léa et moi.
Oui,
je sais bien. Vous savez.
Je vous connais.
Bon, les autres, j'ai envie de vous redonner le goût un petit peu. Car le choix est cornélien pour les adhérents LR. Doivent-ils voter pour celui qui dit que l'immigration est un fléau pour le pays ou pour celui qui pense que le principal fléau pour le pays, c'est l'immigration? Donc les deux se tirent la bourre. Si Retailleau explique qu'il est pas raciste parce qu'il aime le couscous, le lendemain, Wauquiez peut débarquer en babouche à l'Assemblée. C'est typique chez deux mâles blancs qui veulent se départager. Ils règlent ça au bras de fer sur un coin de table. Mais comme on est encore un petit peu civilisé, on appelle ça une élection. Il paraît que les adhésions ont augmenté chez les Républicains. Il y a donc des gens qui veulent vraiment choisir entre Wauquiez et Retailleau. Et d'ailleurs, je réclame un petit peu de respect pour les adhérents LR. Ce sont des gens qui payent une cotisation pour pouvoir choisir entre Wauquiez et Retailleau. Voilà, je suis sûre qu'il y a un tel niveau de détresse chez certains. Ils en sont à espérer une candidature surprise de Xavier Bertrand. Alors, et tant qu'à faire, j'ai aussi une pensée pour les électeurs de droite qui s'intéressent aux questions sociales avant les questions raciales. Et c'est pas parce qu'ils sont que trois qu'il faut les négliger. Oui. Heureusement, pour ne pas confondre les deux candidats, on a cette chance qu'ils sont très différents physiquement. Wauquiez, Retailleau, quel régal d'avoir le choix entre une endive et une asperge. Je sais, je vais encore me mettre à dos la communauté des asperges, mais bon. Donc, je vois très bien ce qui va arriver. Un dimanche matin, les militants LR vont mettre leur bulletin dans l'urne, puis ils vont aller à l'église, et pendant la messe, ils vont se dire « Merde, pour lequel des deux j'ai voté encore, déjà ?» On préférerait tous pouvoir les départager sur le fond. Mais même chez LR, tout le monde dit que leur programme est le même. Alors, je veux pas laisser dire ça, parce que ça supposerait que leur programme a du fond. Et déjà, s'il y avait un programme, on n'en serait pas ressassé pendant des semaines une proposition absurde, parce que là, il y en a un qui a dit « il faut virer tous les OQTF !» L'autre « oui, à Saint-Pierre et Miquelon !»« Ouais, on les renvoie en catapulte !» Voilà, c'est très Puits du Fou, ça, les catapultes. Catapulte, mais c'est inhumain, on les renvoie par colissimo! Pardon, je m'emballe. En fait, je me rends compte qu'avec des idées pareilles, je ferai une excellente candidate LR. Ouais, oui, oui. Pour l'instant, Retailleau est favori. Hey. J'ai eu du flair. Hein. Et c'est normal, il a le soutien de Jean-François Copé. Donc Laurent Wauquiez, lui, cherche le soutien de Rachida Dati. Et ça, je sais parce qu'il a été vu chez Chopard. Un petit sautoir en rubis, c'est quoi? Le prix d'une verrine dans un dîner de la région Rhône-Alpes. Les élections à la tête des partis, c'est devenu hyper simple. Au PS, le débat à trancher, c'est pour ou contre les filles. On l'a compris chez LR, le débat, c'est contre ou contre les Arabes. C'est déjà plus animé qu'à LFI. Manuel Bompard est réélu. Mais attendez, le congrès n'a pas encore eu lieu. Mais on sait, mais Jean-Luc a déjà voté. Pour conclure, je vous dirais que selon moi, le seul véritable enjeu chez LR, il est pour Wauquiez et Retailleau. Ils se détestent tellement que le perdant préférera encore reconnaître la Palestine comme un État plutôt que la victoire de son adversaire.
France Inter. Charline Vanhoenacker a savouré du lundi au jeudi 9h45 et demain samedi à 19h20 pour Bistroscopie. Dans une poignée de secondes, le journal.
Qui veut faire taire les dissidents chinois?
France Inter, Benoît Colomba.
Ce samedi, avec le Consortium international des journalistes d'investigation, révélation sur la répression des opposants au régime chinois sur le sol français. Messagerie piratée, menaces et pressions sur les familles restées en Chine, personne n'est à l'abri.
Secret d'info.
Comment la Chine traque ses opposants sur le sol français? C'est ce samedi sur France Inter, juste après le journal de 13h.
5h28 sur France Inter, devinez qui vient de me rejoindre.
Qui est-il?
Il est là, il va revenir tout à l'heure à 6h. C'est Ali Badou qui vient nous donner un avant-goût de
Sisnet. Bonjour Marion.
Bonjour Ali.
Avec au programme à 6h20, le premier invité de la matinale, Marion, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, sera Anne Bocandé, qui est directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Je chasse le chat qui est dans ma gorge.
Ah oui, vous voulez un peu d'eau peut-être?
Voilà, allez-y. Pardon, chers auditeurs. Et à 7h50, le débat éco, lui, verra s'affronter Dominique Seux et Agathe Cagé autour de cette question. Va-t-on échapper à des hausses d'impôts? Et à 8h20, un grand entretien consacré aux urgences, à la médecine en état d'urgence, avec Caroline Brémaud, qui est urgentiste et autrice d'État d'urgence au pluriel, le quotidien d'une médecin en lutte pour l'hôpital public. Mmh. Et Rémi Salomon, qui est pédiatre à l'hôpital Necker et représentant des médecins des CHU. le président de la conférence des médecins, des présidents de CME-CHU et président de la commission médicale de l'APHP. Voilà pour
Et vont pouvoir vous soigner peut-être, Ali.
Je vais aller me soigner très rapidement, j'ai plutôt vite. Une demi-heure pour retrouver ma voix.
Prendre un petit café, bah oui, on vous attend tout à l'heure, donc de retour à 6h, à tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h29. Le journal, c'est avec Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour.
C'est l'un des héritages de la crise des Gilets jaunes. Les cahiers de doléances sont consultables dès aujourd'hui par tous.
Et ouverture des archives annoncée mercredi par le gouvernement. 6 ans donc après le grand débat citoyen convoqué par Emmanuel Macron pour sortir de la crise. L'occasion donc de redécouvrir les aspirations, les idées compilées à l'époque par des dizaines de milliers de citoyens, Agathe Mahué.
Une partie de ces documents était déjà consultable dans certains départements, mais beaucoup de citoyens l'ignoraient et certains chercheurs même n'y avaient pas toujours totalement accès, raconte Fabrice Dallongeville qui a milité pour ouvrir ses archives.
Il fallait faire des demandes auprès de la préfecture, il fallait qu'elle remonte ça au ministère, etc. Donc ça pouvait prendre beaucoup de temps.
Lui est maire d'un petit village de l'Oise et il se réjouit que ces 19 000 cahiers citoyens nourris de récits de vie, de propositions concrètes, soient désormais accessibles à tous.
Parce que tout ce qui a été écrit il y a 6 ans, c'est toujours vraiment d'actualité. Ce dont on va encore se rendre compte, c'est les priorités de nos concitoyens. Ce n'est pas du tout celles qu'on entend tous les jours portées par un certain nombre de grands élus politiques. Tout ce qui est lié au pouvoir de vivre, aux accès aux services publics, avoir accès à un médecin à côté de chez soi, tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Les questions d'immigration ou d'insécurité sont certes évoquées, mais ne sont pas prioritaires dans le quotidien des Français.
Reste à numériser la totalité de ces cahiers de doléances manuscrits dispersés entre les archives départementales et nationales et à les rendre disponibles en ligne, accessibles de chez soi. Pour cela, un comité de pilotage doit être mis en place dans les prochaines semaines.
Agathe Mahué. Après un 1er mai marqué par un léger regain de mobilisation, 157 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 selon les syndicats, de nouvelles actions annoncées, un rassemblement des salariés de la métallurgie à Paris le 13 mai prochain pour dénoncer les plans sociaux, notamment chez ArcelorMittal. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, renvoie elle au 5 juin avec une journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
Et l'armée israélienne frappe à nouveau son voisin, la Syrie.
Elle a bombardé le quartier du palais présidentiel de Damas. L'État hébreu menaçait de frapper son voisin après une série d'attaques contre la communauté druze. En 2 jours, ces affrontements ont fait plus de 100 morts, selon une ONG, parmi les membres de cette minorité chiite, visée par des groupes armés liés au nouveau gouvernement sunnite. Avant ces frappes, l'ONU alertait déjà sur un fort risque d'escalade. Volodymyr Zelensky, satisfait après la signature d'un vaste accord économique avec les États-Unis, un accord véritablement équitable selon le président ukrainien. Il permet aux Américains d'exploiter le sous-sol ukrainien en échange d'investissements dans un fonds pour la reconstruction du pays. Autre point important pour Volodymyr Zelensky, il n'est plus question de dettes à rembourser à Washington pour son aide financière et militaire depuis le début de la guerre avec la Russie. Donald Trump écarte son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, fragilisé depuis 2 mois par le signal gate, l'ajout par erreur d'un journaliste dans une conversation sur des prochaines frappes américaines contre les rebelles houthis au Yémen. Mike Waltz, remercié de la Maison-Blanche, mais renommé dans la foulée ambassadeur des États-Unis à l'ONU.
En France, la menace d'une semaine noire plane toujours à la SNCF.
Les syndicats de cheminots et la direction ne sont toujours pas tombés d'accord sur les améliorations de salaire et d'emploi du temps. Les conducteurs et les contrôleurs maintiennent donc leur mouvement la semaine prochaine, y compris lors du pont très chargé du 8 mai. Les voyageurs qui le peuvent commencent donc déjà à réfléchir à un plan B si leur train est annulé, Mariam El Kurdi.
Seule certitude, personne ne sait aujourd'hui si son train va circuler la semaine prochaine. La SNCF s'engage à en informer les voyageurs 2 jours avant. Benoît, 30 ans, va donc attendre.
Donc on est censé prendre le train mercredi soir et retour dimanche soir.
Donc en plein pendant la grève ?
C'est ça, donc on verra, on s'organisera. Hein.
Voyage prévu à Lyon, puis dans la Drôme pour une course en montagne avec sa compagne. A priori, pas de stress et un plan B.
Il y aura des Blablacar, on se débrouillera.
Alors ça s'anticipe pas un peu à l'avance, parce que Blablacar, c'est pris d'assaut, non ?
Il y a des trucs qui se libèrent assez vite, un peu à l'improviste, ça peut le faire.
Blablacar, le site de covoiturage sur lequel les demandes se multiplient. L'autre alternative, sur l'axe Paris-Lyon toujours, la compagnie italienne Trenitalia, les demandes augmentent. Ou encore le bus longue distance pour les autres trajets. Mais encore faut-il pouvoir le prendre. Angela, 62 ans, professeure de danse à Paris, prévoit d'aller à Rennes chez son fils. si son train est supprimé.
On n'ira pas. Les bus, c'est trop long. Ils sont complets d'ailleurs. J'ai déjà fait du BlaBlaCar et j'ai pas eu de très bonnes expériences en BlaBlaCar. Bien sûr qu'on peut changer toujours les plans, mais ça va jusqu'à un certain point.
Les voyages annulés seront remboursables ou échangeables, mais attention à bien en faire la demande avant le départ initialement prévu.
Après 4 mois de pause pour digérer l'euphorie olympique, Léon Marchand a replongé hier le quadruple médaillé d'or, a renoué avec la compétition aux États-Unis avec un 400 mètres parcouru en 3 minutes 52 secondes, son record personnel.
Et c'est le moment de plonger dans votre lit. Merci pour ce journal, Valentin Bertrand. La journée s'annonce agité, moins estival que ces derniers jours. Il fera chaud avec quelques orages sur le sud-ouest et la Bretagne. Un voile de nuages s'étend sur la moitié ouest. Le temps se dégradera à la mi-journée sur les Pyrénées avec des averses orageuses, ondées qui peuvent déborder sur l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie. Sur le reste du pays, du soleil, mais les nuages gagnent un peu de terrain au fil des heures et se décalent vers les pays de la Loire. Des averses parfois orageuses remontent en soirée sur l'Auvergne. Elles peuvent également arroser la Bretagne. Le vent d'autan souffle fort jusqu'à 90 km/h sur le pays castrais. 70 km/h en pleine toulousaine, vent de sud assez fort sur le sommet des Pyrénées. Côté thermomètre, prévoyez ce matin 9 à 16 degrés, 18 à 30 degrés cet après-midi.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de faire une visite dans votre playlist, Mathieu Conquet. Mathieu, vous avez eu un petit coup de cœur pour l'album d'une chanteuse suisse. Bonjour.
Bonjour Marion.
Elle s'appelle
Léa Maria Fries et ça sonne en Suisse. Écoutez ça. Witch's Broom, ça veut dire le balai de sorcière. Si après ça, vous n'êtes pas envoûté, moi. Les autres. Écoute, c'est un coup de balai qu'elle veut donner elle-même, sorcière du son, Léa Maria Fries. Née du côté de Lucerne en Suisse, elle vit à Berlin et je crois à Paris un peu parfois. Elle a joué dans plusieurs groupes, différentes formations, mais elle signe là son premier album solo en son nom. Elle écrit ses textes, elle compose aussi. J'ai oublié de vous préciser que sa première apparition sur scène a sans doute été décisive. À 21 ans, c'était pour une compétition de jazz vocal au festival de Montreux, à l'époque présidée par Quincy Jones, et elle était la plus jeune finaliste. Léa Maria Fries chante, rappe presque. Elle ralentit, elle redouble. Tout ça dans plusieurs langues, en anglais, en suisse allemand surtout. Et voilà un disque qui bondit, qui tend, qui s'allonge, qui semble couler très doucement parfois. Il y a notamment un morceau très étonnant sur les champignons. Mmh. Et voilà le disque qui reprend sa route, roulement de tambour.
Hello, I'm on. Léa Maria Fries entourée de ses musiciens.
Oui, ils sont trois, voire plus, si affinités. Parce que là, par exemple, c'est un trompettiste franco-catalan qui les accompagne ici. Léa Maria Fries, qui moi, me fait parfois un peu penser à la belge Mélanie de Biasio pour son côté, son goût à mêler le jazz, des jeux de textures sonores, des saturations. C'est particulièrement sensible dans le morceau qu'on va entendre où elle invite Vincent Peirani à l'accordéon. Alors, c'est le seul morceau en français. Je crois que c'est une première fois pour elle. Une chanson écrite par Marguerite Duras, interprétée dans le film du même titre par Jeanne Moreau. Et c'est en regardant le film, assise à côté du piano pour y ajouter des textures, des notes, qu'elle a trouvé sa lecture d'India Song.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parle d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, qui me parle d'elle, d'elle qui te chantait, toi qui me parle d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort.
Par la chanteuse, c'est magnifique, par la chanteuse suisse Léa Maria Fries et son album, qui a un très beau nom, qui s'appelle Cléo et qui est disponible d'ores et déjà.
Bah oui, Cléo, c'est très beau. Elle sera en concert, Léa Maria Fries, le 14 mai prochain au Subsistance à Lyon et le 10 juin au New Morning à Paris.
Merci Mathieu, on vous retrouve ce soir pour d'autres découvertes musicales que vous allez nous offrir.
On va voyager, comme toujours, embarquement prévu à 21h et je remets le son.
À tout à l'heure. 5h42 sur France Inter, on se régale avec le Zoom de ce matin. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour à tous.
Il y a un mois, le guide Michelin remettait ses fameuses étoiles, le Graal de la gastronomie. 57 restaurants ont obtenu un premier macaron dans le guide rouge. Un mois après, comment ces nouveaux étoilés vivent-ils cette consécration ? Vous vous êtes rendu au restaurant La Pomme d'Or, à Sancerre, dans le Cher, où le chef Yann Tournier, 27 ans seulement, redescend à peine de son petit nuage.
Devant l'entrée du restaurant, il n'y a pas encore la plaque rouge du guide Michelin, avec la fameuse étoile. Sur la porte d'entrée, on distingue cet écriteau, complet.
Nico, t'en es où sur les amuse-bouches, etc. Émulsion fumée, ok.
En cuisine, ils sont trois. Un jeune commis en alternance, une pâtissière, et Yann, le chef, 27 ans, en train de couper des asperges.
Vous avez un tatouage de l'étoile Michelin ?
Oui, c'était un pari qu'on s'était lancé avec l'équipe au début. Si l'étoile tombait, on se la faisait tatouer. Du coup, en fait, toute l'équipe l'a tatouée. Moi, à la main gauche, comme ça, j'ai toujours un œil dessus. Je m'étais promis de jamais me tatouer les mains et finalement, j'ai pas tenu ma promesse.
Cette étoile, c'est un rêve d'enfant pour ce Breton, fils de restaurateur.
Moi, mon père m'avait emmené manger dans un restaurant étoilé quand j'avais 7 ans. Je me souviens encore, j'avais mangé une seule meunière. Je me suis dit, plus tard, je serai chef étoilé. Mais bon, après, quand on a 7 ans et entre la réalité des choses, en général, il y a un monde d'écart. Et finalement, oui, c'est un rêve d'enfant qui se réalise pour ma part.
Depuis la récompense, rares sont les jours où l'une des 6 tables du restaurant reste disponible. Il y a même une liste d'attente.
On a une meilleure fréquentation le midi au restaurant. Avant, le soir, on travaillait déjà relativement bien. Après, en fait, on voit tout de suite que les clients ont une confiance directement. Ils ne vont pas se poser beaucoup de questions. Nous, on travaille sur menu unique et en fait, avant, on avait beaucoup de questions sur les menus. Et là, finalement, non, les gens se laissent guider et c'est génial.
Huile poireau, tu la lanceras plus tard, c'est pas grave.
Est-ce que vous vous dites qu'il y a des clients qui vont venir de loin parce que vous avez l'étoile?
Bah, après, on est dans une région déjà assez reculée, donc on a déjà des clients qui faisaient pas mal de routes pour venir nous voir. Et là, oui, je pense que ça va continuer, parce qu'on a déjà des retours clients, certaines personnes qui font 1h30, voire 2h de route pour venir jusque chez nous. Donc c'est super, ça pousse à la découverte.
Et alors, Victor, une étoile Michelin, est-ce que ça attire vraiment de nouveaux touristes?
Les premiers à arriver ce midi-là, c'est une famille venue de Belgique. En vacances pour quelques jours dans la Nièvre, Maurice, 74 ans, a fait 70 km pour manger à la Pomme d'Or.
Ben, nous sommes déjà passés ici avec des amis il y a 2 ans et c'était vraiment impeccable. Alors on a dit, on va repasser.
Alors, est-ce que vous souhaitiez boire quelque chose pour commencer?
Vous faites confiance, vous, au guide Michelin?
On fait surtout confiance à ce qu'on a vécu soi-même. Hein. Parfois, ça peut terriblement décevoir. Mais parfois, on a des coups de cœur. Et ici, à la Pomme d'Or, on a eu le coup de cœur.
La gastronomie et les vignobles attirent déjà des milliers de touristes ici à Sancerre. Mais le directeur de l'office de tourisme, Mathias Lucien Rapeau, compte sur cette nouvelle étoile pour gonfler les chiffres de fréquentation.
Je sais qu'il y a des passionnés, des aficionados qui vont aller regarder quelle est la dernière, quels sont les derniers. Et puis, en fonction de leur déroulement, de leurs vacances, etc., bah, ils vont faire un détour, etc. C'est ça aussi qui attire et qui fait en sorte que bah, ça donne un petit plus, une expérience de plus à notre destination, à notre territoire.
Pour un village dans un département rural, un restaurant étoilé, ça contribue forcément à l'attractivité de la commune, veut croire le maire Laurent Pabio.
Bah, c'est le nerf de la guerre, c'est la vie du village. Et dans notre village, il y a une vie au quotidien, qui n'est pas seulement liée au tourisme, bien évidemment, parce qu'il y a une vie économique ici, qui existe déjà, notamment liée à la viticulture. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre de commerces, somme toute sur un village de 1500 habitants.
Il n'y a pas de chiffres précis sur l'augmentation du tourisme, simplement un constat de la part de chefs aux quatre coins de la France. Une étoile permet aussi d'attirer une clientèle étrangère qui choisit sa destination en fonction du macaron.
C'était le reportage Zoom de Victor Vasseur à retrouver sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd, le 5-6.
Et à 5h46, c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, directeur médical du LOSC et directeur scientifique du groupe Vipali, oui, une entreprise qui propose des services de santé préventive et notamment une application pour le sommeil. Bonjour Damien Monod.
Bonjour.
Alors c'est exceptionnel hein, que vous soyez debout à cette heure-ci. Je vous remercie donc de nous répondre si tôt le matin. Vous n'êtes pas un lève-tôt normalement?
Non, moi je ne suis pas du tout un lève-tôt, c'est pour ça que quand vous m'avez demandé de venir vous parler de ça, j'ai bien prévenu tout le monde chez France Inter en disant attention, je suis susceptible de donner des conseils à des lève-tôt, mais je n'en suis pas un.
Bon, eh ben, merci d'avoir mis votre réveil exceptionnellement. Pour vous, le sommeil c'est fondamental?
Bah, pour moi, le sommeil c'est fondamental, j'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte parce que je suis un gros dormeur et j'avais un peu ce côté... comme j'ai pas mal de projets professionnels et j'avais ce côté un peu, je cachais cette histoire de sommeil. Aujourd'hui, je suis à 50 ans, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui était fondamental et qui m'aidait dans ma productivité et dans la gestion de mes journées. Et donc, je suis pas tout seul à m'en être rendu compte parce que, autant si aujourd'hui, on est très au clair sur tout ce qui est activité physique et nutrition avec oui. énormément d'études qui sont sorties là-dessus et l'ensemble de la population est très au fait de ça. Le sommeil, c'est encore pas rentré dans l'éducation est encore pas très bonne sur le sommeil. Par contre, les études qui sortent depuis une dizaine d'années sont absolument formelles sur l'importance du sommeil pour aller bien.
Au-delà de la fatigue, d'ailleurs, il n'y a pas que la fatigue, il y a d'autres conséquences si on ne dort pas bien ou pas assez.
Exactement. En fait, la dette de sommeil chronique. Mais je fais souvent l'analogie avec le téléphone portable quand j'essaie d'expliquer ça aux gens. Quand vous mettez votre téléphone en charge le soir sur votre table de nuit, vous ne regardez pas 5 minutes après si votre téléphone est rechargé. Bah, le corps humain, le sommeil, c'est la recharge du corps humain, la recharge de toutes les batteries. Et donc en fait, quand il y a une dette chronique de sommeil, ça engendre tout un tas de dérèglements au niveau hormonal qui, dans la durée, sont vraiment catastrophiques.
Pour le cœur, par exemple.
Exactement. On sait que vous avez tout à fait raison. En fait, les recommandations, c'est de dormir entre 7h et 9h. Le corps humain est fait pour ça. Et si vous dormez moins, mais ce qui est paradoxal, qui peut pas être paradoxal, c'est que si vous dormez plus vous diminuez votre quantité de sommeil, plus c'est relié à la mortalité cardiovasculaire. Mais ça l'est également, si vous dormez plus de 10 heures, c'est relié à la mortalité cardiovasculaire.
Oui, on peut dormir trop aussi. Vous avez co-créé une application donc sur téléphone pour le sommeil. Les Français ont des problèmes de sommeil ?
Alors, il y a une étude en 2023 qui montre qu'il y a 61% des Français qui déclarent avoir des troubles du sommeil. Donc oui, mais par contre, ce qui est intéressant dans cette étude et cette statistique, c'est que seulement 20% de ces Français ont réellement une pathologie du sommeil. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 30 millions de Français qui déclarent avoir des troubles du sommeil et que c'est uniquement lié à un problème d'éducation, de comportement du sommeil.
Et donc, cette application mesure la quantité, la qualité du sommeil?
Alors, entre autres, parce que l'application, nous, c'est vraiment du 360 qu'on fait, parce qu'on se rend compte que tout est relié, en fait, pour aller bien et être en bonne santé de manière durable. Donc, l'application, elle permet de dépister les facteurs de risque chez n'importe quel individu, dans les trois piliers de la santé, tels que décrits par l'Organisation mondiale de la santé, santé physique, mentale et relationnelle. Donc, une de nos catégories est l'évaluation du sommeil via, effectivement, un questionnaire déclaratif sur vos habitudes de sommeil.
Non, parce qu'il y a deux points fondamentaux d'après vous. Le premier, je le disais, c'est la quantité, la consistance du sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
La consistance, c'est-à-dire qu'on a besoin, voilà, comme je vous le disais, de 7 heures à 9 heures. Le corps humain est fabriqué physiologiquement pour ça. Mais ce n'est pas une fois de temps en temps, genre 7 heures à 9 heures. Et la vie fait que de temps en temps, je vais dormir que 4 heures pour des raisons professionnelles ou parce que je suis stressé, que j'ai mal dormi, etc. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir ces 7 à 9 heures sur ce qu'on appelle 7 à 14 jours glissants. D'essayer de regarder bien ça. Est-ce qu'en moyenne, sur 14 jours, j'ai bien ma quantité de sommeil?
Et l'autre point important, c'est l'environnement qui accompagne notre sommeil. Ça se résume facilement en réalité. C'est quoi? C'est ne pas trop manger, pas d'écran, voilà.
En fait, il faut comprendre que le corps humain est assez bien fait, voire très bien fait. Et donc, quand la lumière du soir, la lumière commence à baisser, le corps humain le perçoit comme un stimulus, comme un signal en disant « Ok, la nuit va arriver » et il se prépare. Donc, en fait, l'ensemble des fonctions du corps humain commence à ralentir, à se mettre en veille. Et donc, tout ce qui va interférer en termes de soit d'habitude de vie, soit d'environnement, qui va contrecarrer cette espèce de mise en veille, va être délétère pour le sommeil. Donc, évidemment, que si vous faites un repas trop riche en graisse ou en alcool le soir, vous allez accélérer votre digestion, donc ralentir ce phénomène. Si vous faites de l'activité physique trop proche, c'est la même chose, vous allez exciter votre corps et casser ce phénomène-là. Les écrans, donc, votre corps va être stimulé.
Voilà, donc un bon environnement pour dormir. Merci beaucoup pour vos conseils, Damien Monod. Je rappelle que vous êtes médecin, que vous êtes aussi co-créateur d'une application qui s'occupe notamment de sommeil, et donc on peut la télécharger pour retrouver tous vos conseils. Merci d'avoir participé à ce Déjà Debout sur France Inter. 5h52, les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans Les Petits Bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, une réflexion au sens propre. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Oh miroir, dis-moi qui est la plus belle.
Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 9 ans. Et je voulais vous demander comment ils faisaient les gens avant pour se regarder, parce qu'ils n'avaient pas de miroir.
Ça, c'est une bonne question, Colline. Alors, quand tu dis avant, moi, je dis qu'on va parler du Moyen-Âge, par exemple. Alors, bon, je dis ça aussi parce qu'il y a une historienne spécialiste du Moyen-Âge juste à côté de moi, spécialiste du 5e au 15e siècle. Vous êtes Laurence Moulinier-Brogi, professeure à l'Université de Nanterre. Alors, il n'y avait pas de miroir au Moyen-Âge, si ?
Si.
Ah !
Alors, comment on faisait pour se regarder ? Je ne sais pas si tu es coquette ou pas, mais on peut toujours se regarder de nos jours, même dans une surface d'eau, tu remplis un bassin d'eau et tu peux te voir. Alors, à part ça, ça fait longtemps qu'en fait l'humanité fabrique des miroirs. Les plus vieux datent de 6000 ans avant notre ère, c'est quand même pas mal. Dans un premier temps, ils étaient faits dans une pierre dure et très brillante, l'obsidienne. Puis, on s'est mis à en fabriquer en surface métallique, polie, qu'on lissait, donc, pour pouvoir se refléter. Si on continue à monter dans le temps, les Romains, pour leur part, possédaient des miroirs, en fabriquaient avec des alliages d'étain et de cuivre, puis avec de l'argent. Le problème, c'est que ces métaux, évidemment, ça s'oxyde.
Ça s'oxyde, c'est-à-dire ça, pour ça, les ça enfants, altère, ça devient un peu
ça
rouillé,
noir,
etc.
Hein, l'argent, ça noircit, c'est ça qu'on appelle l'oxydation. Donc, on attachait souvent à ces miroirs une petite éponge pour les nettoyer et une pierre ponce pour les repolir. Puis, ensuite encore, on va inventer le miroir en verre qui va éliminer ce problème évidemment d'oxydation, mais on ne sait pas très bien. Quand il a été mis au point, on hésite, 1er siècle, 3e siècle, on n'a pas la certitude absolue, c'est des choses qui arrivent assez souvent quand on s'occupe de périodes reculées. Alors en tout cas, ces premiers miroirs en verre, pour autant qu'on le sache, étaient constitués d'une plaque de verre, et derrière cette plaque de verre, on mettait une feuille de métal, qui permettait donc de renvoyer une image, et ils étaient de très petite taille. Au Moyen-Âge, il y a des miroirs, alors c'est pas accessible à tout le monde, c'est évidemment un objet quelque peu luxueux, hein, évidemment. Je veux pas te dire que dans les campagnes, il y a beaucoup de miroirs. Et ils se présentaient comme de petites boîtes, formées de deux petits couvercles ou de petites valves, qui s'emboîtaient l'une dans l'autre. On les dévissait, et dedans, on trouvait le miroir qui était toujours décoré, au moins sur une face.
Ah oui, donc c'était vraiment tout petit,
c'est
quoi.
Tout petit, c'est vraiment un
comme
objet
comme un petit
de
tube
poche.
De rouge à lèvres.
Oui, c'est ça.
Ah ouais,
quelque chose de cet ordre. Donc c'était très petit, c'était circulaire, la surface n'était pas tout à fait plane parfois, et donc il faut imaginer que l'image renvoyée était parfois un peu déformée ou floue. Alors c'est un objet qui va suivre les modes, hein. Par exemple au XIVe siècle, ces fameux petits miroirs vont être de préférence en ivoire, il y a une vogue des valves de miroirs en ivoire. Et ce qu'on peut dire aussi, même si c'est un petit peu triste, c'est que de nos jours on n'en a plus beaucoup, et que la partie réfléchissante a souvent disparu. Donc dans les musées, quand on voit un miroir médiéval, il est rare qu'il soit complètement intact. Et par contre, on conserve l'autre face, souvent très joliment décorée, avec des scènes amoureuses, etc., etc. Donc c'est un instrument qui existe depuis longtemps, luxueux, longtemps imparfait, mais qui avait quand même déjà une utilité.
Oh, les beaux tout petits mini-miroirs, mais pas top l'ivoire pour les éléphants. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
Et au programme de Café Philo, ce vendredi, les larmes. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Bon, a priori, on se dit que les larmes, c'est le chagrin, c'est la tristesse, je me trompe ?
Alors, je vais vous faire une réponse de Normande. Oui et non.
Ah.
Non, vous ne vous trompez pas dans la mesure où quand on pleure, bah, c'est qu'on a de la peine.
Oui.
Et oui, vous vous trompez. Alors, si on pense par exemple au premier pleur du bébé, expression de vie, on les attend, c'est comme un bon signe.
Oui.
Et puis à travers l'histoire, les larmes sont un adjuvant. Pensez aux Romains de l'Antiquité, mais je sais que vous le faites tous les jours.
Bien sûr.
Ils pleurent abondamment. Sarah Ray, spécialiste d'histoire ancienne.
Donc il y a des phénomènes qui sont très récurrents hein, chez les Romains, c'est vraiment le fait de réguler les tensions sociales par les larmes. Beaucoup de circonstances, beaucoup de lieux où les larmes coulent. Évidemment, les cérémonies funèbres, mais là, on n'est pas très étonné. Mais aussi certains rites religieux, des rites expiatoires. Quand les mauvais présages se multiplient dans la cité, là, il faut pleurer pour faire comprendre aux dieux qu'on veut éventuellement se faire pardonner des entorses à la vie religieuse normale. On pleure aussi beaucoup dans les tribunaux romains, hein, les orateurs pleurent énormément. On pleure dans les assemblées politiques, dans les légions romaines. Et ensuite, les chrétiens reprennent tout ça pour en faire autre chose. Les Romains n'avaient effectivement pas encore inventé le refoulement des émotions, donc beaucoup d'hommes et de femmes, bien sûr, mais pleuraient abondamment donc dans une foule de contextes politiques, sociaux et religieux. Ensuite, est-ce que... oui, il y avait une impétuosité qui nous surprend, mais qu'on finit peut-être par retrouver aujourd'hui avec certains hommes politiques qui, effectivement, font savoir que l'heure est grave et attendent d'être filmés pour se montrer en train de pleurer.
Et oui, les politiques aussi pleurent.
Souvenez-vous, Barack Obama chantant Amazing Grace en hommage au pasteur Clementa Carlos Pinckney. C'était après la fusillade de l'église de Charleston en 2015. Il était sans cesse au bord des larmes. Je prends cet exemple à dessein pour ne pas évoquer de politique française, mais il y aurait fort à faire aussi.
Ah oui.
Des larmes aux sanglots, il n'y a qu'un grand pas. Et si les sanglots nous secouent des pieds à la tête, ils font aussi de nous des sujets.
Les larmes et les sanglots au programme de votre heure philo, Patricia Martin. Venez pleurer avec nous et avec Sarah Ray, qu'on a entendu tout à l'heure, autrice des
sortez
larmes de Rome. Mais oui, sortez vos mouchoirs. Autrice des larmes de Rome, publiée chez Anna Mossa et Estelle Ferrarez pour une philosophie des sanglots. Ça s'est sorti chez Bibliothèque Rivage. Rendez-vous donc à 20h10. À ce soir.
À ce soir, Marion.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et revoilà Ali Badou et Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour Marion, bonjour Ali, bonjour à tous.
C'est la dernière journée de cet été précoce.
Oui, on va encore profiter d'une journée chaude et relativement ensoleillée. Dans le détail, on a ce matin un voile nuageux assez épais sur la Bretagne, sur le Cotentin. Idem du côté des Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera grand beau, mais les nuages vont gagner du terrain. Le ciel va se voiler progressivement par l'ouest. On aura un petit peu moins de ciel bleu que ces derniers jours, sauf de la pointe nord vers le Grand Est ou sur la Corse, où là le ciel sera un petit peu plus dégagé. Et puis surtout, c'est l'arrivée des premiers orages. À la mi-journée, on va les retrouver sur les Pyrénées, qui pourraient même déborder sur le Roussillon. Milieu d'après-midi sur le sud de l'Aquitaine et sud-ouest de l'Occitanie. Puis en soirée, ce sera sur la Gironde.
Et quant aux températures, elles sont encore chaudes. Hein.
Une moyenne de 23 à 29 degrés encore cet après-midi. Alors ça baisse un peu déjà près des côtes de la Manche, avec des valeurs souvent comprises entre 20 et 22 degrés. Et ce matin, c'est déjà très doux. 10 degrés à Nancy, 13 à Brest, 15 à Lille, 17 à Nice ou 18 à Paris.
Et à Lille, 6-9 va démarrer dans un instant au programme.
Le programme, on a le temps d'en parler. Il est pile 6 heures, Marion.
Presque.
Il est 6 heures. Merci d'écouter Inter et bienvenue.